Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Triste record aux États-Unis face au Covid-19 dans le pays le plus touché au monde en valeur absolue. Encore 2000 morts en 24 heures à cause de la pandémie. Nous irons dans le Dakota du Nord dans un instant. Pendant ce temps, en France, le ministre de la Santé mettait en garde hier, pas de déconfinement à la fin du mois. Une baisse des contaminations ne veut pas dire que les chiffres sont bas, dit-il. Amazon France attendra la réouverture de tous les commerces pour son Black Friday. En tout cas, le géant de la vente en ligne repousse cette journée de braderie d'une semaine, vous l'entendrez dans cette édition. Et puis direction l'Irak où des dizaines de milliers de déplacés retrouvent leur terre en ce moment après la guerre contre le groupe État islamique. Aux États-Unis, l'épidémie de Covid-19 semble hors de contrôle dans plusieurs États. Le pays a enregistré près de 12 millions de cas. On recense 252 000 morts, dont 2 000 hier, chiffre inégalé depuis mai dernier. Les autorités sanitaires encouragent les Américains à ne pas voyager la semaine prochaine pour les fêtes familiales de Thanksgiving, alors que l'épidémie est en phase exponentielle dans le pays. C'est particulièrement le cas dans plusieurs États du Midwest et notamment l'État rural du Dakota du Nord, État très peu peuplé mais qui connaît en ce moment un taux de mortalité élevé, comme l'explique ce reportage de Gregory Phillips.
Les télévisions locales donnent chaque soir le nombre de contaminations. Et dans cet état très peu peuplé, moins de 800 000 habitants, le Dakota du Nord est surtout connu pour ses grandes plaines désertiques. Les chiffres sont affolants. Près d'un millier de morts, entre 1 500 et 2 000 contaminations quotidiennes. Le gouverneur impose donc de nouvelles mesures, comme le port du masque obligatoire. Ces nouveaux chiffres nous imposent de nouvelles règles, dit le républicain Doug Burgum. Nous devons inverser cette tendance dangereuse et éviter, si possible, la fermeture de l'économie locale. Depuis deux semaines, le petit État du North Dakota est celui qui, aux États-Unis, connaît le taux de contamination le plus élevé du pays. Un habitant sur 79 a été testé positif. Le maire de la ville de Minot, 80 000 habitants, est inquiet. Quand les températures ont commencé à baisser, les gens ont organisé des choses à l'intérieur, des mariages, des soirées dans des bars, des rassemblements, créant des foyers de contamination. L'autre problème que l'on a, ce sont les personnels médicaux. Beaucoup sont tombés malades ou sont cas contact. C'est un vrai défi. La plupart des 47 hôpitaux du Dakota du Nord sont saturés. Des infirmiers militaires de l'US Air Force viennent d'arriver sur place pour prêter main forte aux équipes débordées.
C'était Grégory Phillips. En France, le nombre de patients arrivant à l'hôpital à cause du Covid-19 diminue pour la troisième journée consécutive. Mais même si les chiffres vont dans le bon sens, le confinement n'est pas terminé, rappelle Olivier Véran, ministre de la Santé. Il tenait hier soir son point de presse hebdomadaire sur l'évolution de l'épidémie et il prévenait.
Le confinement n'est pas terminé et ce n'est pas d'actualité de déconfiner le pays. Nous devons poursuivre nos efforts pendant toute la durée nécessaire pour casser l'épidémie, vaincre le virus. Nous l'avions fait au printemps dernier. Nous y arriverons et nous retrouverons une vie beaucoup plus normale ensuite. Ce n'est pas parce que le niveau de la marée est en train de baisser qu'on peut déjà sortir en toute quiétude dans la rue, si je devais faire une métaphore. C'est-à-dire que nous sommes encore avec une pression épidémique qui est importante. Imaginez qu'avec aujourd'hui quelques 22 000 ou 23 000 cas diagnostiqués aujourd'hui, nous sommes finalement au moment de pression épidémique qui, quand on regarde avant le confinement, correspondait déjà à la mise en place du couvre-feu dans un certain nombre de métropoles et précédait de quelques jours l'annonce par le président de la République du confinement. Donc c'est pas parce que ça baisse que c'est bas.
Olivier Véran qui intervenait hier soir avec la ministre déléguée à l'autonomie Brigitte Bourguignon. Elle a demandé aux EHPAD de tester leurs salariés chaque semaine. Après Carrefour et Leclerc, c'est au tour d'Amazon France de renoncer au Black Friday le 27 novembre dans 8 jours. C'était une revendication des petits commerçants fermés pendant le confinement. Ils souhaitaient pouvoir participer à cette braderie commerciale. Elle pourra se tenir le 4 décembre, une semaine plus tard. Le patron d'Amazon France, Frédéric Duval, l'annonçait hier soir sur TF1.
Aujourd'hui, comme d'autres distributeurs en France, en écoutant les recommandations du gouvernement, nous avons décidé de reporter la date du Black Friday, si cela permet de rouvrir les commerces et les magasins physiques avant le 1er décembre. Et donc, cette année, le Black Friday aura lieu le 4 décembre et nous servirons l'ensemble des Français partout sur le territoire et nous serons aussi un support à l'ensemble des milliers de TPE et PME qui vendent par notre intermédiaire.
Voilà pour la concession affichée d'Amazon France, preuve que la pression politique paye selon les syndicats. Bercy avait en effet demandé un geste aux géants de la vente en ligne. Concernant la proposition de loi sur la sécurité globale, est-ce vraiment une concession de la part du gouvernement? Un amendement sera déposé pour l'article 24 qui encadre l'image des policiers et des gendarmes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va proposer de souligner que cette disposition est sans préjudice de l'intérêt légitime du public à être informé. Explication d'Antoine Marette.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 24 prévoit de pénaliser d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de l'image, du visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou gendarme en intervention lorsque cette diffusion a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Une mesure très contestée, pas simplement à la gauche de l'hémicycle, mais également parmi les journalistes qui craignent de ne pouvoir couvrir sereinement les manifestations et les éventuelles bavures des forces de l'ordre. Face à ces polémiques, Gérald Darmanin va donc retoucher l'article pour le maintenir et le faire voter par la plus large majorité. Un amendement gouvernemental va préciser que le texte ne fait pas obstacle à la liberté d'informer et il va davantage caractériser l'intention de nuire aux forces de l'ordre, le « en même temps » façon Darmanin, faire un pas en direction des opposants, sans tourner le dos aux policiers et aux gendarmes. Un nouveau pas, puisque le ministre de l'Intérieur a déjà dû reculer sur un souhait, celui d'imposer le floutage des forces de l'ordre.
Antoine Marette pour France Culture. Venons-en maintenant au procès de l'attaque du Thalys devant la cour d'assises spéciale de Paris en ce moment. La cour devrait entendre aujourd'hui les deux militaires américains qui ont maîtrisé le terroriste en août 2015 dans le train Thalys. Mais hier déjà, les autres passagers ont raconté l'effroi qu'ils avaient vécu, Florence Turm.
D'abord, le récit croisé de Marc et Isabelle Mougalian, ce couple franco-américain installé en première classe, voiture 12. Il s'est emparé de la kalachnikov du tueur, a pris une balle dans le dos, elle a cru le voir mourir. Sa voix se brise à la barre quand elle revit la scène. La jugulaire était atteinte, j'ai paniqué, il y avait du sang partout, la moquette bleue du Thalys est devenue noire et je ne savais plus quoi faire. Elle salue le courage de Spencer Stone qui va maîtriser l'assaillant et stopper l'hémorragie. Spencer, il m'a sauvé la vie, acquiesce son époux à la barre. Reste le traumatisme. Pour lui, enseignant et guitariste émérite, l'impossibilité d'utiliser correctement sa main gauche et des réactions de suspicion qu'il se reproche. J'essaie d'avancer, de laisser tout cela derrière moi. Pour elle, qui donnait des cours de français à des expatriés, une phobie des transports et une hypervigilance toujours active malgré un suivi thérapeutique. Mais le procès, les attentats, l'anniversaire de cette attaque ravive à chaque fois la blessure. Ça a été une plongée dans ce que l'être humain a de plus sombre, explique Isabelle Mougalian. Quelque chose que je ne comprends pas, en contradiction avec mes valeurs fondamentales qui me dépassent complètement. Le film de Clint Eastwood, dans lequel le réalisateur américain leur a demandé d'incarner leur propre rôle, demeure pour eux une expérience positive. Au milieu de cette audience douloureuse, Isabelle Mougalian livre une dernière pointe d'humour. Je ne voulais pas qu'ils mettent une actrice complètement hystérique à ma place. Donc je l'ai fait aussi pour ça, par fierté.
C'était Florence Turm. Comme promis, nous partons à présent en Irak où des habitants qui avaient fui les combats contre Daesh en 2014 reviennent par dizaines de milliers sur leurs terres. 34 000 depuis juin par exemple dans la région du Sinjar à l'extrême nord-ouest du pays. C'est là que s'est rendue notre correspondante Lucille Wasserman.
Barzan Farez est un jeune père yézidi de 7 enfants. Après 6 ans d'exil, il a fait le choix de revenir s'installer à Sinjar, sa ville natale. Son ancienne maison a été complètement détruite dans les combats en 2014 contre Daesh. Cheveux courts et noirs, le regard brillant, il erre dans le nouveau domicile qu'il vient d'acheter et reconstruit.
Après 6 ans loin d'ici, où que vous soyez, quelle que soit la qualité de votre vie, votre terre, votre ville natale, votre chez-vous, vous manque toujours, tout le temps.
Outre le désir de retour et récemment la fermeture des camps de déplacés en Irak, le coronavirus semble avoir été un moteur pour ces Irakiens.
Certains ont eu peur que les checkpoints ferment à nouveau et que les déplacements ne soient plus autorisés entre les gouvernorats, les empêchant de voir leurs familles qui vivaient dans des camps. Alors ils ont ramené leurs familles à Sinjar.
Reste que sur place, les habitants font toujours face à de nombreux défis, notamment sécuritaires. Daesh est parti de la ville, mais le groupe a été remplacé par une longue liste de forces armées concurrentes, dont des milices.
Je ne sais pas qui pointer du doigt, car il y a tant de forces, tant de tensions politiques ici. Les gens ont peur à cause de ces tensions entre groupes armés.
À l'heure où ces déplacés prennent le chemin du retour, le besoin de reconstruction et d'apaisement semble plus impérieux que jamais. Mais Barzan, lui, se dit résigné. Il a déjà attendu 6 ans que le gouvernement prenne les devants. sans succès.
Lucille Wasserman en Irak, où le gouvernement demandait par ailleurs hier soir une présence militaire américaine continue sur son territoire. La moitié du contingent doit se retirer d'ici fin janvier. Le temps sera sec mais nuageux ce vendredi en France métropolitaine. Ce matin, il fait frais, 3 à 11 degrés du nord au sud. C'est l'heure du...